I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Elisabeth Lévy est avec nous ce soir, Georges Fenech, Philippe Guibert, Éric Revel. Et nous allons parler d'Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron a redit ce soir la phrase « les troupes possibles françaises, en tout cas européennes,
à Londres ».
Comment ?
Il a dit ça à Londres.
Oui, oui. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Souvenez-vous, c'était ce qu'il avait dit le 26 février. Et là, si les Russes devaient aller percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on devrait légitimement se poser la question. L'écarter a priori, c'est ne pas tirer les enseignements des deux dernières années. Alors, évidemment, quand on entend ça et qu'on fait le parallèle avec Valérie Hayer qui est à 15%, on se dit voilà, Emmanuel Macron, il sort le chiffon rouge de la guerre.
Surtout que les deux conditions, elles peuvent se réaliser.
Hein. Non, oui, bien sûr.
Non, mais ce qui est intéressant, je vous le répète, je ne dis pas que c'est ce qu'a voulu le président Macron. Je vous dis que beaucoup de gens interpréteront ça immédiatement par un cynisme absolu. La campagne électorale européenne est globalement en difficulté, on va dire, pour Madame Hayer, voire c'est une catastrophe. Il a fait un discours sur l'Europe l'autre jour, lettre morte.
Oui. Comptabilisée par l'ARCOM.
On en parlera tout de suite après. Oui. Bon, lettre morte, c'est extraordinaire. D'ailleurs, le président a parlé pendant 2 heures, tout le monde... Alors, c'est comme s'il n'avait rien
dit. On a tort,
bon, et là, et je disais hier, souvenez-vous, il n'avait pas parlé hier. Oui. Vous avez dit le premier jour, il n'a pas parlé depuis longtemps. Ben là, il a parlé, et c'est les troupes. La ficelle devient un petit peu voilà.
Mais parce que vous croyez que c'est de nature, enfin, vous croyez vraiment que de dire ça est de nature à faire.
Il le croit.
Lui, il le croit avec l'effet drapeau, etc. Maintenant, on mériterait un plus grand et beau débat, un sur cette question ukrainienne, si vous voulez, parce qu'on peut trouver qu'on doit aider l'Ukraine sans penser que les intérêts nationaux de la France sont engagés et donc que l'on voit des troupes. Mais surtout, je suis étonnée, vous dites, on s'est pas intéressé au discours, on a tort. C'est le seul sujet sur lequel on est sûr qu'Emmanuel Macron pense qu'il dit qu'il ne va pas changer le lendemain. Il veut une Europe fédérale. Eh bien.
Oui, là, ce n'est pas ce qu'il dit.
On peut lui trouver une certaine logique dans la suite de ses idées. Pardonnez-moi, je veux dire pourquoi. Parce que quand, en novembre 2019, il explique que l'OTAN est en mort cérébrale, quand l'arrivée de Trump peut laisser supposer que l'Europe aura besoin de se défendre elle-même. Quand il dit, je vais discuter de l'arme nucléaire française, qui est le seul pays à en avoir une, depuis que les Britanniques... En fait, il est sur cette logique européiste, à laquelle j'adhère pas du tout, mais il est...
Fédéral.
Donc, en fait, il suit cette logique au détriment des États-nations. Et à chaque fois que vous l'écoutez prononcer le mot Europe, en fait, il parle de souveraineté européenne, plus jamais de
la
souveraineté nationale.
Une.
Évidemment qu'il il a une certaine suite dans
la une. La une de The Economist, c'est l'Europe est en danger mortel. Ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que il s'autorise à dire l'Europe est en danger mortel. Jamais il dit la France est en danger mortel.
Non. Oui, ce que je veux dire.
Très intéressant.
C'est incroyable. Ce que je dis.
Il parle très intéressant. L'Europe, donc l'Europe, on a le droit de dire ça. Mais la France, elle est peut-être aussi en danger mortel.
Non, mais c'est... Oui, ça, c'est un très bon argument.
Mais non, mais c'est drôle.
Non, mais j'y ai pas pensé, mais ça m'enrage maintenant.
Marine Le Pen a réagi. Cette nouvelle déclaration d'Emmanuel Macron est d'une extrême gravité. L'envoi de troupes françaises en Ukraine ferait peser une menace existentielle sur 65 millions de Français. Philippe Guibert.
Non, mais il faudrait qu'on discute de la situation en Ukraine de façon... apaisé. Parce que, objectivement, si Donald Trump est élu et qu'il limite le soutien américain à l'Ukraine, si conséquemment la Russie prend l'avantage sur l'Ukraine et si l'Ukraine est en danger, la question se posera. Oui, la question se posera. Le cadre dans lequel il définit cette probabilité, la question se posera. Après, ça ne veut pas dire qu'on ira, mais la question se posera pas simplement à la France, elle se posera à tous les pays européens.
Mais si c'est...
Je trouve qu'il n'a pas entièrement tort de poser cette question. Alors évidemment, ça tombe en pleine campagne européenne, donc ça, je vous concède que ça prend tout de suite une dimension électoraliste. Mais la question se
posera.
Oui,
mais elle se posera, c'est peut-être qu'elle se posera, mais à force d'agiter une menace comme ça, de toute façon, elle finit par s'émousser un peu. C'est pas le genre de chose qu'on peut dire tous les quatre matins à Poutine, attention, on va peut-être envoyer des troupes. Au bout de la quatrième.
Je pense que les gens perçoivent ça voilà. En disant, voilà.
Bon. Il est interrogé par une publication internationale qui est un peu obligée de l'interroger là-dessus. Mmh. Et il peut pas se contredire, il va pas dire le contraire.
Sauf que Philippe Guibert, quand il a fait cette première déclaration, vous vous souvenez de la réaction du chancelier allemand qui a dit no way. On n'en sera pas. Donc, si vous voulez dire, on envoie des troupes, si on est le seul Français à envoyer des troupes.
Ce que vous disiez, en revanche, il y a quelques instants, est intéressant. L'ARCOM donne raison à Éric Ciotti, le président des Républicains, qui a adressé jeudi un courrier à l'ARCOM, peu avant le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. Selon Éric Ciotti, cette intervention du président constituait une rupture d'égalité entre les candidats aux élections européennes qui se tiendront en juin prochain. Donc, la prise de parole dans un contexte de campagne est affirmée par l'ARCOM. L'ARCOM a considéré qu'en l'espèce, si les propos du président de la République n'exprimaient pas un soutien explicite à la liste conduite par Mme Valérie Ayé, il présentait néanmoins un lien direct avec l'élection dans la mesure où contribuant à dresser un bilan de l'action passée exposant les éléments d'un programme, il pouvait avoir une incidence sur le scrutin. Alors, je ne sais pas ce que ça change pour tout vous dire.
Cette décision, elle est logique. Oui. On a tous compris qu'il s'agissait d'un discours politique.
Enfin, là, pour le coup, c'est le président de la République.
Ce que je veux y voir, si vous permettez, et ça me rassure beaucoup, c'est une manifestation d'indépendance de l'ARCOM.
Je comprends
qui,
ça.
Normalement, est indépendante. Mais là, c'est une manifestation claire de l'indépendance de l'ARCOM vis-à-vis du pouvoir exécutif. Et ça me rassure beaucoup.
Entièrement d'accord.
Alors, les temps qui courent, ça me rassure.
Si ils ont voulu marquer un point, parce qu'il y a une petite rupture de jurisprudence, là.
Oui. Ah, attends, un discours sur l'Europe pendant les élections européennes, ça pourrait ne pas être décompté, là, je comprends pas bien, là.
Il y a des temps précédents ou les interventions.
C'est un discours sur l'Europe.
Vous pensez que ça change? Est-ce que vous pensez qu'il y a un Français qui va changer son vote? Parce qu'Emmanuel Macron a parlé.
Ah, mais ça, c'est autre chose. Vous n'avez pas interrogé la
liste. Parce que, au fond, tous ces organismes-là sont là parce qu'on pense qu'ils peuvent avoir de l'influence, l'ARCOM. L'ARCOM est là parce qu'on pense que si Macron parle, ça peut avoir de l'influence sur le débat politique. Nous sommes d'accord.
Je crois que c'est même plus simple que ça.
Non, mais je suis d'accord, mais ce n'est pas la question que vous. Je suis totalement d'accord avec ça.
Je n'ai pas fait du tout la même lecture que vous. Moi, je pense qu'il a prononcé ce discours un vendredi à 11h. Bon, ce n'est pas un discours qui était en direction des Français, en fait. Pas du tout, sinon vous ne le prononcez pas à ce moment-là. Vous ne le prononcez pas un vendredi à 11h. D'ailleurs, le lendemain, le sondage CNews montrait que 63% des Français ignoraient que le chef de l'État avait produit un discours sur l'Europe. Non, en fait, il donne des gages à l'Europe fédérale et surtout, il veut s'inscrire dans un leadership. Olaf Scholz ne prend pas le leadership en Allemagne. Non. Ce n'est pas un discours pour moi qui était en direction des Français. Pas un vendredi.
Mais quoi qu'il en soit, il doit être décompté, c'est tout.
Évidemment.
Voilà, c'est de ça.
Mais là où Pascal. Non, mais là, la question que pose Pascal. Pardon, Eric, la question que pose Pascal est autre. C'est est-ce que cette régulation. Moi, un sens quelconque. Mais bon, là, on peut tout à fait discuter.
C'est une façon de réaffirmer son indépendance,
Décompte des temps de parole.
Il réaffirmait qu'il doit y avoir une certaine égalité entre les différentes tendances politiques.
Et il va y avoir le président de la République.
Il a tablé.
Il échappe un peu.
Vous savez, on est déjà dans un système.
Vous voyez que ça sert. Vous
la commission des comptes de campagne va intégrer ce qui a coûté.
En tout cas, vous disiez le plus grand mal de vos amis les Républicains en disant que c'était fini, qu'ils étaient morts. Vous disiez ça. Oui, vous. Alors là, franchement, vous.
J'ai dit ça.
Vous disiez ça.
Mais jamais j'ai dit une chose.
Vous disiez c'est fini, il va falloir qu'ils se reconstruisent. Vous n'avez pas dit ça.
Je crois qu'il va falloir reconstruire comme l'avait fait
Sarkozy
quand il avait créé les LR après l'UMP, comme l'avait fait Chirac quand il avait créé l'UMP après le RPR. À mon avis, c'est le moment de refonder quelque chose.
Ne soyez pas cruel, Pascal, s'il vous plaît.
J'adore Jean Fenech, parce qu'en partant à 15 points, c'est le logiciel des années. On est en 76 avec la création du RPR.
C'est une fidélité à son parti.
La refondation des partis, ça a toujours été dans l'histoire de la République. Ça a toujours été comme ça. Le Parti Socialiste aussi. Revoyez vos classiques, Pascal.
Mais vous me sidérez si vous pensez qu'on en est à la droite, elle n'est plus chez vous.
Refondée.
Mais elle n'est plus chez vous, elle est partie. Elle est partie, en fait.
Le RPR est ailleurs.
Il y a quelqu'un qui a pris la place.
Oui, mais les gaullistes, ça existe toujours.
Le RPR est ailleurs.
Mais les gaullistes, ils peuvent être.
Ils sont pas au RN.
Ils se sont retrouvés dans d'autres partis, les gaullistes.
Oui.
Bon, écoutez, on verra.
On verra le score.
Bon, l'université. Le Town Hall, là, la direction a débattu aujourd'hui avec des étudiants. C'est formidable, d'ailleurs, parce que. En fait. et on entendra monsieur, c'est Basserès ou Basserès.
Basser.
Bon. Lui, il considère que, en fait, un prof, c'est pareil qu'un élève.
Bah oui.
Et, non, en fait.
Mais tout vient de là.
Un prof, les élèves, ils sont là, et les étudiants, là, ils sont là pour étudier. Ils ne sont pas là pour parler avec les profs, échanger et être à égalité.
Verticalité.
C'est formidable, je vous assure, ce qui se passe à Sciences Po en ce moment. Alors, ce town hall, on va pouvoir en parler ensemble, mais quoi, enfin, vous allez...
Bah, c'est un truc emprunté à la création des États-Unis.
Ce qui est marrant, c'est que c'est en anglais, en plus.
Vous voyez la séquence.
C'est du wokisme. Oui, c'est un mot qui appartient au lexique des universités américaines. Oui,
mais
on prend ce comme si...
Vous voyez la séquence, déjà, où vous allez entendre Israël assassin, Sciences Po est avec les Palestiniens. C'est le slogan, je crois, qui est dit dans les couloirs de Sciences Po.
Ça fait Sciences Po.
Sciences Po complice, Israël assassin. Et M. Basser, vraiment, mais je ne veux pas dire j'ai honte pour lui, mais qui vient s'exprimer.
Trop sévère, quand même.
Mais je ne peux pas vous dire autre chose, j'ai honte pour lui. J'ai honte pour lui.
Il a marqué quand même une fermeté sur au moins un point aujourd'hui. Mais moi, je laisse lancer le reportage.
Écoutez, vous allez l'écouter, moi j'ai honte pour lui. Donc, il s'est exprimé suite à la série de mobilisations pro-palestiniennes, parce qu'en fait. Bah, écoutez-le, et puis après, vous allez pouvoir vous donner votre avis. C'est-à-dire que, alors là, pour le coup, c'est pas du tout la verticalité. C'est-à-dire qu'il considère que bah, les étudiants sont au même niveau que les profs. Bah, moi, j'ai honte pour lui.
J'ai pu préciser un certain nombre de points avec deux engagements que j'ai pris. Le premier sur le fait qu'il fallait vraiment lancer une réflexion interne à Sciences Po pour bâtir une doctrine sur le fait de savoir si Sciences Po devait ou pas prendre des positions sur des grands sujets politiques. Et nous allons aussi lancer des travaux pour préparer à la rentrée un plan que j'espère ambitieux pour mieux poser les règles du débat demain, mieux vivre ensemble au sein de Sciences Po, s'assurer que nous sommes intransigeants comme nous le sommes aujourd'hui sur l'antisémitisme et la lutte contre le racisme, et puis réfléchir aussi à la manière dont on peut sans doute traiter dans le cadre de nos cours et enseignements le conflit Moyen-Orient.
Ouais, je vous assure. Non, pour moi, c'est effrayant.
Ouais, mais ça
vous...
Mais
où est-ce que vous voyez
ça vous fait rire, mais moi, je vous assure.
Il n'y a pas de débat à créer à Sciences Po. Il y a des gens qui sont là pour étudier, point.
Excuse-moi, Philippe, pardon.
Je veux dire, c'est tout.
Alors, vas-y, Elisabeth.
Non, mais moi, je suis désolée. Non, mais
parce que
tu vas me répondre. Moi, j'ai été comme toi à Sciences Po. J'aurais entendu ces foules hurler Israël assassin. Je pense que j'aurais quitté cette école. J'aurais peut-être d'ailleurs quitté ce pays. Non, mais... J'aurais peut-être d'ailleurs quitté ce pays. Je veux dire, moi, voir ce spectacle pour moi est un crève-cœur et un sujet de colère que tu ne peux même pas imaginer. Et ce type-là, celui-là qui a été négocié, Monsieur Basser, voilà. D'accord, il a été négocié avec des gens qui demandent la destruction d'Israël. Est-ce que, comme l'a dit Eric, pendant le town hall, c'est effectivement venu des universités wokistes américaines. Mais ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, ils vont discuter avec eux d'une chose horrible. Ils vont demander à Sciences Po, et je vous fiche mon billet qu'ils vont céder, de rompre leur partenariat.
Mais non.
On verra. On verra.
Si je peux me permettre, Elisabeth, d'abord sur ce point précis qui est très important, sur les partenariats avec les universités, Basser a dit très clairement qu'il était hors de question, il l'a dit publiquement et très clairement, hors de question de les remettre en cause.
On verra.
Il l'a dit très clairement. Il a dit, ça ne sera jamais le cas. Deuxièmement, là, il ne parle pas de l'enseignement. Je suis désolé, mais je comprends très bien ta réaction par rapport à Israël assassin. Je la comprends très bien. Mais il y a toujours eu, Sciences Po a toujours été aussi un lieu de débat.
Mais pas comme ça.
Comme ça, oui, parce qu'on a changé d'époque, à l'évidence.
Ça
a toujours été un lieu de débat. Tout l'enseignement supérieur, je termine juste d'une phrase. Tout l'enseignement supérieur a été et un lieu d'enseignement et un lieu de débat.
Mais pas d'antisémitisme.
Mais pardonnez-moi,
l'histoire, Philippe, faut pas refaire l'histoire. Pourquoi il y a eu un blocage à Sciences Po? Souvenez-vous, parce que il y a eu zéro débat, parce que précisément les militants étudiants pro-palestiniens refusaient à des étudiants juifs ou à d'autres étudiants de pouvoir entrer et d'entamer un débat. Donc que le président par intérim de Sciences Po explique qu'il va faire tout son possible pour que le débat puisse être serein, mais pardonnez-moi, ce qu'on lui demande, c'est de remettre de l'ordre, de remettre de l'ordre dans son établissement. Les examens commencent lundi prochain à Sciences Po. Et sur la poignée de minoritaires, 200, 300 exaltés, vous avez des milliers d'étudiants qui veulent passer leurs examens. Et surtout, ils ne veulent pas qu'on touche à l'image importante et valorisante de Sciences Po.
Bon, ce que je vous propose, qu'il y ait des débats politiques.
Mais c'est institutionnel.
C'est normal. Mais qu'il y ait une politisation, une infiltration d'un courant idéologique avec le soutien d'un parti politique, avec la terreur intellectuelle, avec des slogans comme on l'a entendu, ça non.
Mais genre, c'est pas le débat politique. C'est un état d'esprit. L'homme que j'entends institutionnalise les palabres permanents à Sciences Po. C'est ça que j'entends. C'est mon interprétation.
C'est d'abord
le quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Et qui vient dire, c'est des palabres permanents. L'école Sciences Po, c'est pas fait pour ça. Première chose, il y a des choses en plus inquiétantes, parce que là, on va écouter Arancha González, qui était à côté de lui. Il savait même pas, il se souvenait même pas du nom de l'école des relations internationales qui est dirigée par cette dame. Donc ça m'a un petit peu étonné quand j'ai entendu. Je me dis, tiens, j'étais assez surpris. Donc écoutons en revanche ce qu'a dit cette dame à la sortie de cette réunion.
Aujourd'hui, les débats sont durs. Ils sont durs parce que les sujets sont difficiles, parce que les sujets divisent les sociétés. C'est des sujets qui suscitent l'émotion et parfois la rage. C'est pourquoi ce que nous avons voulu faire aujourd'hui et ce que nous avons fait, c'est un débat démocratique où toutes les parties à Sciences Po, travailleurs, enseignants, étudiants, pouvaient s'exprimer librement. C'était dur parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. Il y a des étudiants qui se sont sentis agressés. Et tout ça, on a pu les débattre ensemble. On n'est pas, bien sûr, au fin de ces débats, parce que la démocratie doit continuer à vivre à Sciences Po.
Ce que je trouve insupportable, c'est la minorité active qui gagne. On a reçu ici un étudiant, Pierre-Alexandre. Ils sont 2000 à Sciences Po. Il y en a 1950 qui veulent travailler et qui ne peuvent pas continuer à ces palabres permanents avec ces agitateurs professionnels qui existent partout, dans toutes les facs de toute la vie. C'est 50 personnes. Et on arrête Sciences Po pour ça. Et vous avez un directeur qui arrive sur le perron et qui vient expliquer. C'est ça, c'est une question d'état d'esprit. Si vous ne voyez pas ça...
Et je pense que vous exagérez la situation.
Mais faites un sondage. Vous feriez voter les gens. Vous feriez voter les 2000. Vous diriez, qu'est-ce que vous voulez sur les 2000 ? Ça serait très clair, mais on ne le fait jamais, ça.
Y compris dans la journée où a été bloqué Sciences Po. Ailleurs,
Mais parce que c'est des activistes, professionnels. Ça s'appelle des activistes. C'est des militants professionnels. Vous les verrez toute votre vie.
Je signale juste qu'il y a des cours qui se sont déroulés, y compris pendant les journées.
Oui, non, mais c'était super. Il y a eu une journée de bazar.
Monsieur Engage, mais bien sûr.
Bazar anti-israélien primaire devant la rue Saint-Guillaume, mais c'était super.
Elisabeth, personne n'a dit que c'était super.
Non, mais il y a eu des cours.
Philippe.
Je dis juste que le cours n'a pas été interrompu.
Écoutons Monsieur Gage. Il est prof, Monsieur Gage, à Sciences Po. Ça en dit beaucoup aussi. Monsieur Gage, il est prof à Sciences Po. Moi, j'ai appris ça. Oui. Il est député du PS.
Jérôme Gage.
Oui. Je ne sais pas pourquoi il n'y a jamais de prof du Rassemblement National à Sciences Po. Ça n'existe pas.
Oresco, référent.
Donc vous avez juste quand même quelqu'un qui a un engagement politique XXL. Il y a Madame Cagé également, qui est prof à Sciences Po, je crois. Mm-hmm. Bon, qui, elle est fils.
Ne dites pas que les profs de Sciences Po sont de gauche, c'est pas vrai.
Ah bon,
d'accord. Ah, Pascal, non, franchement. Regardez la liste des profs.
Est-ce qu'il y a un prof à Sciences Po qui est du Rassemblement National ?
Mais est-ce qu'il y a besoin d'un prof issu du Rassemblement National ?
Il y en a un du PAP, Parti Socialiste.
Et il est pris parce qu'il est, c'est un spécialiste des affaires sociales.
Et il n'y a pas de spécialiste des affaires sociales au Rassemblement National ? Franchement, vous êtes. Vous n'êtes évidemment pas sérieux là-dessus.
Je suis très sérieux.
Je pense qu'il y en a un, mais il se cache. En
fait. Bah exactement, voilà. C'est ce que j'allais dire.
Ils ne le disent pas.
Mais ne dites pas que les profs sont de gauche.
Il ne peut pas se cacher.
Non, mais
il n'y a pas de député du Rassemblement. Il y a un député du Rassemblement National.
Député, bien sûr.
Lui, il est député, M. Gage.
Oui, d'accord, mais il n'y a pas de député du Rassemblement National qui soit à l'université professeur, je ne crois pas.
Pourquoi ?
Posez-leur la question. Moi, je ne sais pas leur parcours professionnel.
Il faut leur demander aux profs pourquoi ils ne sont pas.
Jean-Philippe Tanguy, il n'a pas été prof.
Allez, ça ne se fait pas par quota de partis politiques.
Écoutons M. Gage
à l'université.
Écoutons M. Gage à Sciences Po.
Les étudiants sont légitimes à exprimer leur solidarité, mais il faut qu'ils puissent le faire dans des conditions où tout le monde s'y retrouve. Moi, comme enseignant avec mes élèves, c'est ce que j'essaye de faire depuis près de 20 ans que j'enseigne ici. Et dans des moments comme ça, on a besoin d'avoir un lieu de débat à l'université. Et on a besoin que chacun se sente bien, dans la péniche. Il faut qu'on puisse à la fois exprimer la solidarité avec les Israéliens après le 7 octobre, penser aux otages qui sont toujours détenus, et en même temps appeler au cessez-le-feu, appeler à la protection des civils palestiniens. Et donc à l'université, on doit pouvoir le faire aussi, comme on doit le faire partout dans le pays. Enfin, c'est la même chose que je défends comme enseignant à Sciences Po que comme élu de la République.
Mais par rapport au débat, moi je me rappelle, il y avait déjà des débats. Ce qui est intéressant là, c'est qu'ils demandent dans toutes les universités américaines ici, ils demandent à la direction, non pas de laisser le débat s'organiser d'ailleurs, ils lui demandent de prendre position. Ils demandent maintenant... Et je voulais dire un mot sur le recrutement des profs, ça concerne moi Sciences Po qui est un système spécifique, mais vous avez un effet cumulatif puisque c'est des pairs qui élisent les professeurs. Donc, quand vous avez une petite... majorité ou une grosse minorité qui est déjà woke, si vous voulez, qui va-t-elle recruter ? Et donc, dans 10 ans, dans ces packs-là, vous n'aurez plus que des profs woke parce que les autres se planqueront.
Bah évidemment, je crois que Philippe Bilger a voulu aller à Sciences Po, il n'a pas pu faire une conférence. Geoffroy Lejeune a voulu aller à Sciences Po, je crois qu'il n'a pas pu faire une conférence, etc., etc.
Alors, il y a 7 ans, moi, j'y suis allé, c'était encore possible.
Mais on va marquer une pause. Dans des facs américaines, puisqu'ils sont un peu en avance sur nous, si j'ose dire, sur le wokisme, vous avez des critères de sélection pour occuper des postes hiérarchiques, des critères qui sont d'abord des critères ethniques, d'autres critères avant des critères de compétences.
Gaëlle est venue comment ? Elle était devenue comment directrice d'Harvard ?
Elle avait plagié une partie de sa thèse, l'ancienne patronne de...
Donc,
Absolument. Je rappelle que Sandrine Rousseau était vice-présidente de l'université de Lille. Sandrine Rousseau, donc si vous pénétrez effectivement le monde de l'enseignement supérieur, c'est peu de dire qu'il penche à gauche.
Ce phénomène de pénétration,
à l'extrême.
Vous les trouvez dans les écoles.
Je ne crois pas que ça soit
sur l'école de journalistes, l'école de la magistrature.
De toute façon, c'est simple, vous prenez tous les professeurs.
Vous les retrouvez.
Vous voyez un par un. Moi, tous les gens à Sciences Po, ils disent bah oui, effectivement, ils penchent plutôt à M. Vichra et des gens qui.
C'est
Richard Descoings, c'est pas des.
Richard était macroniste.
Et Richard Descoings ?
Richard Descoings était soutenu par Nicolas Sarkozy, notamment.
La pause, et nous revenons tout de suite.
Ah si, c'est la vérité.
C'est vrai, mais il ne venait pas de là. Il était aussi soutenu par Lang. C'est pas le stream, c'est pas génial. Hein.
Deuxième partie de l'émission, et aujourd'hui, on a une nouvelle fois parlé de Nassira El Mouadem. On en a beaucoup parlé hier, mais il se trouve que la polémique, en tout cas, a un peu aujourd'hui, sinon rebondi, a eu des nouveaux
développements.
Exactement. Je vous rappelle le tweet de Nassira El Mouadem, pays de racistes dégénérés, il n'y a pas d'autre mot, la honte. Elle remettait simplement en cause l'idée que la Fédération française de football veut faire appliquer des règles de laïcité sur le terrain. C'était ça, c'est pour ça qu'elle dit ça. Ouais. Et les règles de laïcité, c'est on ne se couvre pas les genoux, on ne se couvre pas les cuisses pour les hommes, et on ne porte pas un voile dissimulé par un casque pour les femmes. C'est ça qu'a dit la Fédération française de football avec Philippe Diallo, qui est ferme sur ces positions-là et qui est vigilant sur ces positions-là. Et qu'est-ce qu'elle dit, Nassira El Mouadem ? Presque indirectement, elle dit à Philippe Diallo, c'est un comble, elle lui dit, pays de racistes dégénérés, il n'y a pas d'autre mot, la honte.
Mais qu'elle le quitte.
Bon, bah, qu'elle est française.
Bah, elle est française, d'accord, je ne nie pas sa qualité française, mais
alors,
si elle n'aime pas son pays.
Aujourd'hui, Touche pas à mon poste a voulu inviter Nassira El Mouadem. Je travaille pour l'émission Touche pas à mon poste sur C8, a donc tweeté Madame Nassira El Mouadem, elle a donc tweeté la demande d'interview. Nous aimerions vous inviter ce soir dans l'émission, est-il possible d'échanger par téléphone, s'il vous plaît ? Et elle a répondu, bonjour Cyril Hanouna, je ne viendrai pas, car vous faites partie du problème en participant activement à la banalisation des discours de l'extrême droite raciste, islamophobe et attentatoire aux libertés. C'est toujours des mots et... on éructe l'anathème, mais on ne dit jamais précisément pourquoi. Donc on traite les gens de racistes, on les insulte. Et puis voilà, moi, on dit toujours la même chose. Si vous pensez que je suis raciste, portez plainte, parce que le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Et Cyril lui a répondu, Cyril Hanouna, continuez à attiser la haine avec vos messages comme ceux d'hier. Nous, on n'insulte jamais la France et les Français, car nous aimons la France et les Français. Je remercie tous les jours ce que la France et les Français ont fait pour moi et ma famille, dit Cyril Hanouna. Continuez à vous ridiculiser. Et puis, il y a un communiqué de Radio France qui a dit, Nassira El Mouadem n'est ni journaliste sur France Inter, ni salarié de Radio France, alors que manifestement, elle mettait plutôt cela en avant sur son CV. Elle a ponctuellement collaboré à deux séries d'été pour France Inter en 2021 et 2022, ceci précédant de loin les propos concernés. Dès lors, ces propos communiqués via son compte Twitter ne peuvent en aucun cas nous engager, parce qu'elle met en avant sa participation manifestement à France Inter. Et puis, elle travaille également, alors, Arrêt sur Image, je ne sais pas
que c'est. Alors, Retour Image, c'est le site Schilderman. Qui a été créé par Daniel Schilderman.
Oui.
Voici un site.
Sur la 5.
Oh, bah, écoutez, je pense que vous avez déjà eu le droit à des tombereaux.
Moi, je ne connais pas. Voilà. Mais bon, je ne sais pas ce que.
Ne vous inquiétez pas. On a tous eu le droit à des tombereaux.
Ils vous connaissent.
Ah bon?
Bon, écoutez, en tout cas, bon, donc ce Arrêt sur Image, dites-vous. Donc, alors là, il y a toute une rédaction, manifestement, sur Arrêt sur Image, qui se joint à son rédacteur en chef, Paul Aveline, je ne sais pas qui est ce monsieur, pour dénoncer le harcèlement raciste que subit notre collègue Nassira El Moadem de la part de l'extrême droite relayée par les médias Bolloré. Ah, ça c'est moi, donc c'est nous, quoi, c'est moi, c'est nous, en l'occurrence. Donc nous, nous relayons manifestement pour c'est ces gens-là, hein, ouais. Nous, nous relayons pour ces gens-là, comment dire, un harcèlement raciste. Alors que c'est Madame El Moadem qui a dit pays de racistes dégénérés, il n'y a pas d'autre mot, la honte.
Mais on a laissé, écoutez.
Mon Dieu.
Non, on a encouragé. Mon Dieu. On a encouragé au plus haut niveau ce discours de haine de la France. On a, ça fait des années que une partie de nos élites médiatiques, etc. C'est pour ça que le communiqué de France Inter est quand même une très bonne nouvelle, qu'ils se désolidarisent de ça, c'est quand même bien. Mais ça fait 30 ans que, si vous voulez, on trouve ça tout à fait normal d'écouter à la fois des élites de ce pays et des Français de récents, disons, réclamer leur détestation de ce pays. Quand je vous ai dit au début qu'elle le quitte, ça ne veut pas dire que je ne la considère pas comme française, si vous n'aimez pas votre pays. Si vous pensez que nous sommes un pays de racisme, il n'y a pas un pays en réalité, si vous voulez, à cause de notre ADN républicain, qui est moins raciste que la France. Il y a pas. Rappelez-vous quand les écrivains noirs américains venaient en France et ils disaient en France on ne nous voit pas comme des noirs. Donc.
Non mais revenons sur le fond.
Oui, c'est sur le fond.
Sur le fond. Je rappelle que la Fédération française. Voilà. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, il y a des demandes communautaires, religieuses, identitaires très fortes dans le sport. Le sport est un laboratoire. Pourquoi ? Parce que le sport concerne des gens jeunes. Donc on peut voir ce qui se passera demain. Ce qui ne se passe d'ailleurs pas ni au Maroc ni en Tunisie. Il n'y a pas ces demandes-là. Les joueurs de football ne jouent pas avec des cuisses. Avec des lunettes, bon, voilà, ils nous regardent.
Et qu'est-ce qui se passe ? Ils ne les reconnaissent pas, d'ailleurs.
Exactement.
Ils ne les reconnaissent pas comme les leurs.
Exactement.
C'est des clubs amateurs.
Ils sont originaires de ces pays.
C'est intéressant.
Moi qui vais de temps en temps, on s'est plus envie de dire, mais c'est qui ? Mais pour, qu'est-ce que vous attendez pour mettre de l'ordre ? Chez nous, ils ne font jamais ça.
C'est vrai.
Même quand ils vont en vacances, jamais.
Et ils sont pas
donc,
très bien
reçus. Parce qu'on a un problème.
Ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est jamais développé, c'est que ces jeunes gens en France ils leur sont disent, très mal perçus de l'autre côté de la Méditerranée.
Quand il y en a quelques-uns qui essayent de mettre un peu le désordre, ils leur disent mais rentrez, vous n'êtes pas de chez nous. Vous n'appartenez pas à notre famille. Je vous assure, que ce soit les Marocains et les Tunisiens que je rencontre, ils sont mais éberlués de voir ce qui se passe dans notre pays. Mais c'est que le fait, c'est qu'on n'a plus d'autorité. Voilà.
Mais parce que la classe médiatique, en plus, par une sorte de sadomasochisme, je ne sais pas comment l'expliquer comme ça.
Parce que ça fait ouvert.
Comment s'appelle ce site-là ? Arrêt sur
Arrêt sur Image.
Ces gens-là, effectivement, sont une culpabilité. Et c'est très intéressant.
Mais jusqu'à quand expliquer. Nous laisserons-nous diffamer, comme ça, sans réagir ? Quand j'entends Bolloré, raciste, les chaînes, etc. Jusqu'à quand on peut tolérer ça ?
C'est le public qui choisit. Et le public, ce soir, il regarde.
Vous croyez que c'est
présents.
Suffisant ? C'est bien.
Il y a une la France.
Il y a une légitimité. Il y a une légitimité du succès, forcément. Les gens vous écoutent, Georges. Ils vous écoutent ce soir.
Oui, mais, d'accord. Mais moi, ça me fait mal au cœur quand je vois qu'on est traité de xénophobe, d'islamophobe, de raciste.
Mais c'est la France qui paye le racisme.
Réagissions. Moi,
on réagit, puisque on réagit. On le dit. On
pas
dit.
Uniquement avec des mots.
C'est le moment de montrer la une de causeur.
Philippe Guibert.
Non, mais il faut revenir au fond parce que c'est ça qui est le plus grave. C'est le fait qu'elle, cette dame assimile des règles de laïcité réaffirmées par la Fédération française de football à du racisme. C'est là où toute la perversion intellectuelle et idéologique doit être soulignée quand même, parce qu'il s'agit juste d'appliquer des règles qui sont relativement, d'une part ancienne et d'autre part parfaitement de bon sens et d'évidence dans notre pays.
Vous me permettez que je vous dise quelque chose ? Votre engagement est à gauche, c'est votre responsabilité. C'est une enfant des années 80-90, Nassira El Moadem.
Vous à la gauche, la laïcité, je pourrais vous dire.
Non, vous lui.
Permettez-moi de vous dire quelque chose.
C'est fou,
la laïcité de gauche.
Mais à cette jeune femme, vous lui avez bien expliqué qu'il fallait qu'elle garde ses traditions.
Je lui ai rien expliqué du tout.
Vous lui avez bien expliqué qu'il fallait qu'elle ne s'assimile pas. Vous lui avez bien expliqué qu'il fallait la différence. France.
Le droit
bien
à la
sûr.
Ah, bah,
la laïcité. Bah,
aujourd'hui,
on mélange tous les débats. Là.
Ah bah on non, mélange tout. C'est facile de dire on mélange rien du tout en fait. On ne mélange rien du tout.
Pardon. Qui était le président du Conseil de la laïcité? Jean-Louis Bianco qui détestait la laïcité parce que même.
Et Monsieur Jospin en 89. Attendez, parce qu'on va pas parler de ça pendant des années. Monsieur Jospin en 89, c'est bien le départ. Il a pas compris ce qui se passait à Creil. Cet enfant, et ben vous avez les conséquences aujourd'hui.
Ah oui,
c'est la gauche a laissé tomber la laïcité.
Ni plus ni moins, vous avez les conséquences aujourd'hui. Et c'est bien normal. Ouais. Causeur, dernière chance avant la.
Bah oui. Moi, je pense.
Ah, vous y allez quand même peut-être.
Non, si on réagit pas, pardon, excuse-moi, laisse-moi m'expliquer une seconde. Si on ne réagit pas, bien sûr, c'est un peu pour.
Dernière chance avant la charrie.
Oui, si on ne réagit pas, d'accord, ce qui est en train de se passer dans des territoires va s'imposer petit à petit, dans de plus en plus. Enfin, jour après jour, vous voyez.
Je pense pas que la charia sera à la boule demain matin.
Peut-être pas à la boule. À côté de
ni
la boule,
ni à l'île de Ré, ni à Noirmoutier.
Non, mais. Eh ben d'accord, vous aurez.
Je ne crois pas.
Gardez-vous. Ce que je vous essayez.
Ni en Corse, chez nos amis corses.
D'accord, ce que vous essayez de m'expliquer, c'est qu'il y aura quelques territoires français qui arriveront à ce.
Je ne crois pas, maintenant je peux me tromper.
Je vais prendre fait et cause pour la une de Causeur, mais vous avez vu ce qui s'est passé à Hambourg quand même. Vous avez des musulmans radicalisés qui demandent la mise en place d'un califat à Hambourg. À Hambourg, ville allemande, gros papier dans le Figaro.
Vous vous souvenez de la phrase de François Mitterrand sur les sans-papiers? Chez moi, ils sont chez eux.
Ouais. Il avait dit aussi d'autres choses, Mitterrand, le seuil de tolérance, etc., qu'on lui a reproché.
Allez, avançons. Non, Philippe. Mais vous parlez tout le temps, donc on n'entend que vous. Ouais. Allez, dernière chance avant la charia, c'est la une de. Ça marche bien, Causeur?
Ça dépend des numéros, mais celui-là, j'espère qu'il va marcher. Oui, je sais.
Alors, puisqu'on parlait de France Inter, Guillaume Meurice, suspendu par Radio France après avoir répété ses propos sur Netanyahou, le muriste de France Inter. Terre a été suspendu par Radio France. Alors, moi, je ne savais pas qu'il avait répété ses.
Oui, oui.
Donc, lors d'une chronique du 29 octobre 2023, il avait comparé Benjamin Netanyahou. Il avait dit nazi sans prépuce. Et puis, ce dimanche, il a dit il y a des choses qu'on peut dire. Par exemple, si je dis Netanyahou est une sorte de nazi, mais sans prépuce, c'est bon. Le procureur, il a dit c'est bon. En référence au récent classement sans suite d'une plainte à son encontre l'accusant d'antisémitisme pour des propos similaires. Alors, madame, là, pour le coup, madame Veil a été, vigilante. D'abord, il y a un tweet de Guillaume Meurice qui dit « Chères auditrices, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne participerai pas aux deux prochaines élections le grand dimanche soir sur France Inter. Il y a des choses qu'on peut dire, par exemple, bon, ça je viens de le citer, donc il a mis un petit tweet. Et communiqué de Radio France, il a été convoqué ce jour par la direction des ressources humaines à un entretien préalable qui aura lieu dans les prochaines semaines. Dans l'attente de cet entretien, il est suspendu. En fait, il se fiche de... Évidemment qu'il se fiche de sa patronne, pour le coup.
C'est une erreur
de Madame Veil, et que c'est pas.
Alors, moi, je pense qu'il y a un contexte global, parce que là, l'affaire avait été classée sans suite. Donc, lui, il a voulu faire de l'humour, il a voulu faire une suite. Vous voyez, la suite, c'est réitérer les mêmes propos.
C'est pas de l'humour, il veut provoquer.
Attends, bien sûr. Mais moi, je pense qu'il y a deux choses qui doivent intéresser la patronne de Radio France. C'est évidemment le contexte dans lequel elle a viré Jean-François Aquili. Donc, si elle laisse passer ça, je pense qu'elle a sa tutelle et d'autres qui lui tombent dessus. Puis il y a autre chose, Pascal, qu'il ne faut pas ignorer, qui est un peu technique, mais il y a la mise en place d'un holding qui va fusionner Radio France et France Télévisions, peut-être à la fin de l'année. Donc là, vous avez deux personnalités importantes sur la ligne de départ. Vous avez Mme Ernotte et Mme Veil.
Elle a peur, Mme Veil.
Et c'est ce que je vous dis.
Elle veut ça, elle veut la place. Ben, elle multiplie les contacts.
Voilà. Donc,
elle va voir des gens importants.
Elle est obligée de réagir violemment en s'asseyant sur ses propres déclarations. Puisqu'après la première sortie de Meurice scandaleuse sur Netanyahou est un nazi sans prépuce, elle l'avait convoqué, il avait eu un avertissement, et elle avait déclaré à la presse « Je ne le licencie pas parce que j'ai peur que ce soit instrumentalisé ». Mais là, ils vont convoquer, sans doute, peut-être, pour un licenciement. Et là, est-ce qu'elle n'a pas peur que ce soit instrumentalisé? Vous voyez, là, je pense que... Voilà,
non mais attendez, est-ce qu'on peut discuter quand même de la légitimité? Moi, je déteste l'humour de Guillaume Meurice, et surtout, je déteste qu'il n'y ait pas un Guillaume Meurice de droite, ou disons, qui s'attaquerait à d'autres cibles sur France Inter. Maintenant, moi, je déteste aussi, si vous voulez, qu'on juge l'humour. Il peut y avoir des blagues trash qui me dégoûtent, qui vous dégoûtent. Moi, je passe mon temps à dire qu'il faut que toutes les religions acceptent qu'on se... payent leur tête.
Oui.
Et donc, je pense qu'on a tort de sanctionner l'humour.
C'est passé avec l'excellentissime Gaspard Ganzer, Proust. Sur Europe 1, la réaction de députés de la France Insoumise qui ont trouvé ces traits d'humour scandaleux, qui veulent attaquer, etc. Mais en fait, il y en a marre.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la gauche, et surtout l'extrême gauche, n'a plus le dessus en matière de d'idées. Moi, je dis souvent que pendant des années, les réactionnaires, c'était les gens de droite. Pourquoi les gens de droite? Parce que ceux qui avaient les idées, qui les portaient sur la table du débat national, c'était les gens de gauche. Aujourd'hui, la gauche n'a plus d'idées. Les idées qui sont dans le débat national sont les idées de droite. Et donc, les néo-réactionnaires, ce sont les gens
d'accord, de gauche. D'accord, mais vous m'avez perdu, là.
Et non, je ne vous ai pas perdu. Ce que je veux vous dire, c'est que Meurice, ça vous fait rire, ça ne vous fait pas rire. C'est même pas le sujet. C'est même pas le sujet. S'il n'y avait pas eu l'affaire Akili et la façon scandaleuse...
Scandaleux.
Bon, et bien peut-être que Mme Veil n'aurait pas réagi de cette manière et n'aurait pas convoqué une deuxième fois pour un entretien.
Je pense qu'il ne faut pas oublier, au-delà du cameriste, etc., il faut faire attention quand on sanctionne l'humour. Je vous rappelle, vous avez reçu Philippe Val sur ce plateau d'ailleurs qui parlait.
Oui.
Non mais, et ce qui était très bien. Et je vous rappelle juste que.
Pour son livre,
ils ont pas, ça n'a pas le même statut. Et je déteste. Je trouve ça. Horrible, vraiment dictatorial d'avoir viré Akili. Je trouve ça vraiment injuste, tout ce que vous voulez, je trouve pas le mot pour ça. Mais en revanche, qu'on attaque l'humour, qu'on sanctionne l'humour au tribunal, si vous voulez, on va entrer dans une logique terrifiante. Voilà, je vous le dis. Même Guillaume Meurice, je le défendrai. Je défendrai aussi
sauf que,
la liberté.
Sauf qu'il faut être honnête, c'est que pendant des années, l'humour de droite ou stigmatiser l'extrême droite n'était pas supportable pour les gens de gauche.
Oui.
Le seul humour qui passait, qui devait avoir pinacle et pignon sur rue, c'était un humour de gauche.
Donc on doit être aussi sectaire qu'eux ?
Je dis pas ça, je dis simplement qu'il faut l'avoir en tête, Elisabeth.
Oui.
Il faut aussi se rappeler les difficultés dans lesquelles le débat a vécu en France, quand même. Et l'humour aussi.
Là, c'était de la provocation vis-à-vis
de... Oui, c'est de la provocation vis-à-vis de... Il a raison, juste, Philippe. Il a évidemment
juste
raison.
Juste pour dire, t'as vu, c'est moi qui aurai le dernier mot.
Bah, évidemment, et il y a une expression qui qualifie ce type d'attitude parfois.
Je crois que je vois de quoi.
Voilà, c'est... Je trouve que c'est pas très malin.
Bon, mais provoquer sa direction, c'est plus monnaie courante dans le service public que dans une boîte privée.
Non, mais c'est une manière de... Voilà, c'est une manière de... Ça en dit beaucoup, je trouve, sur sa psychologie, sur le rapport à la direction, sur son rapport au monde, à l'autorité. Voilà,
il se prend pour un héros de la liberté.
Oui,
hein.
Oui, c'est ça.
C'est ça le truc. Je recommande.
En fait, il n'est pas très drôle. Moi, le problème, je trouve le problème de M. Meurice, il est très simple. Il n'a pas beaucoup de talent. Il n'est pas très rigolo. Philippe Cavrivière est drôle. Meurice, il n'est pas très drôle. Il fait ricaner, mais c'est pas très marrant en fait. Dans 5 ans, dans 10 ans, je suis pas sûr qu'il soit encore
dans ce monde. En revanche, ce qui est très drôle, c'est le papier d'Eugénie Bastier sur son livre. Ça, c'est un papier très drôle.
Est-ce que vous voulez peut-être que nous évoquions les migrants dans Paris, puisque à quelques jours des Jeux Olympiques, quelques semaines des Jeux Olympiques, vous allez, si vous vous baladez dans Paris, vous constatez effectivement tous ces camps de migrants qui sont là, notamment à la station Pont-Marie. Je vous propose de voir ce sujet.
Malgré une volonté ferme affichée par le gouvernement, les camps de migrants persistent dans la capitale. Comme ici à la station de métro Pont-Marie dans le 4e arrondissement, à quelques centaines de mètres de l'hôtel de ville, des dizaines de tentes installées le long du trottoir, malgré des contrôles de police fréquents à l'approche des JO. Selon le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, pour les associations, la présence de ces migrants dans Paris serait une aubaine.
C'est un enjeu de visibilité politique forte pour eux. Oui. Ils ont une démarche militante. On sait qu'il y a des associations qui distribuent des tentes. Typiquement, je ne sais pas ce qu'il en est sur le cas du Pont-Marie, mais les campements qui sont restés longtemps près de la place de la République, par exemple, étaient, si je puis dire, subventionnés logistiquement par ces associations.
Depuis plusieurs mois, l'État organise des transferts de ces migrants en car depuis la région parisienne vers différentes villes de province, notamment vers Orléans, où ils seraient plusieurs centaines à être arrivés depuis près d'un an. Une tentative de répartition de la population de migrants afin de faciliter davantage leur insertion dans le pays.
Aussi cette idée que l'intégration pourra se faire plus facilement dans des régions moins concernées, ça reste à prouver. La trajectoire d'intégration des réfugiés hors Île-de-France, elle n'est pas fondamentalement meilleure. Les difficultés ensuite de placement en rétention administrative et de renvoi de ceux de ces étrangers qui sont en situation irrégulière, qui font l'objet d'une OQTF, ne sont pas forcément meilleures hors d'Île-de-France qu'en Île-de-France.
Selon les chiffres officiels, environ 4000 personnes ont ainsi quitté Paris depuis près d'un an.
Bon, je ne suis pas sûr que tous les maires apprécient de voir arriver ces migrants dans leur commune. Vous souvenez
ils ne sont pas prévenus en plus, paraît-il. Ils sont le préfet qui les prévient.
le maire n'existe plus dans cette affaire. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a eu la réaction justement du maire d'Orléans, c'est Roire qu'on avait reçu.
Et puis le maire également de Châteaurouge, Lavrousse, qui a dit les Afghans sont arrivés, on m'a prévenu la veille, et puis il y a 150 Afghans qui sont arrivés dans ma ville, j'étais pas au courant.
Aucun moyen particulier, les hôtels sont pleins, et puis les actes de délinquance et les crimes qu'on a vus.
Tout à l'heure, je cherchais, quand vous parliez du rire, et je me permets de revenir parce que c'est vraiment quelque chose d'important, vous avez également dit le mot wokisme. Et la grande orientation aujourd'hui, c'est que tu ne dois offenser personne. Et notamment, tu n'offenses pas les damnés de la terre. Et qui sont les damnés de la terre? C'est en gros les victimes de l'homme blanc. L'homme blanc, il est aujourd'hui perçu comme colonisateur, esclavagiste, capitaliste, tout ce que vous voulez. Bon. Donc ça, c'est la règle dans nos métiers, avec le wokisme, nos métiers, je veux dire, dans le monde culturel dans lequel nous vivons, la télévision, etc. On n'offense pas les damnés de la terre. On a le droit de se moquer des Bretons si on veut, des Ploucs, des minorités, des Beaufs. On a le droit de se. Là, on a le droit. Des vieux. On a le droit de se moquer des vieux, curieusement. Mais les damnés de la terre, on n'a pas le droit de se moquer parce qu'ils ont souffert, parce qu'on offense, etc. Et je voulais simplement vous lire ce qu'a écrit dans le New Yorker Jerry Seinfeld, qui est l'humoriste que vous connaissez. J'ai trouvé ça formidable. Les gens ont absolument besoin de comédie, ils n'en obtiennent plus. Dans le passé, on rentrait à la maison après le travail et on se disait « Oh, il y a Cheers, il y a MASH ». Vous saviez qu'il y aurait des choses amusantes à la télé. Eh bien, devinez quoi, il n'y en a plus. C'est le résultat de l'extrême-gauche, du politiquement correct et du fait que les gens s'inquiètent trop d'offenser les autres. Lorsque vous écrivez un scénario et qu'il passe entre 4 ou 5 mains de relecteurs différents, des comités, des groupes qui vous disent « Voici ce que nous pensons de cette blague », eh bien, c'est la fin de la comédie. Nous avons fait un épisode de Seinfeld dans les années 90 où Kramer décidait de faire tirer des pousse-pousses par des sans-abri parce que, comme il le disait, de toute façon, ils sont dehors. Pensez-vous que je réussirais aujourd'hui à diffuser cet épisode? HBO, ça c'est passionnant, HBO sait que les spectateurs ont soif de comédie et se dit « Est-ce qu'on affronte la controverse ou est-ce qu'on arrête complètement l'humour ?» Et ce qu'ils ont décidé, c'est de ne plus faire de comédie. Aucune sitcom n'a été retenue pour la saison d'automne sur les 4 chaînes majeures. Aucune nouvelle sitcom aux États-Unis. C'est sidérant. Moi, j'ai entendu Gilles Verdez, que vous connaissez, dire « Il ne faut plus faire d'humour ».
Oui.
Je vous assure, ce monde-là, il est sidérant, surtout pour nous qui avons grandi dans les années 60-70.
Vous pouvez me dire la
même chose. Mais bien sûr.
Le cinéma aussi, le recrutement des acteurs, les scénarios... Voilà, donc le wokisme, c'est quoi? C'est l'éveil, on est éveillé. Il faut absolument être éveillé. Pour être éveillé, il faut effectivement le traduire aussi dans l'art, le cinéma, etc.
Oui, mais c'est comme Sciences Po. En fait, c'est une minorité. Tous les gens, ils veulent rire. Les gens, ils sont pas du tout comme ça. C'est une petite poignée de gens qui prend le pouvoir. C'est des minorités actives. 90%, ils ont envie de...
J'allais dire...
Ils acceptent ce qu'on veut dire. L'autre jour, Léa Salamé, c'est très intéressant, Léa Salamé a simplement dit une blague au second degré. Le type a dit « Je bois plus, je fume... » Bon, elle a dit « Ah ben, vous êtes devenu chiant. » Et c'est pour rire.
Mais oui.
Elle a joué avec les codes. Nous sommes d'accord. C'est du second degré.
Oui. Oui, mais Pascal, vous avez oublié une...
Que n'a-t-elle pas dit? Je crois qu'elle veut s'excuser ce week-end.
Non.
Bien sûr.
Mais vous avez oublié une chose, c'est la baisse du niveau culturel qui fait que les gens ne comprennent pas le second degré. Je suis désolée. Écoutez, je me rappelle avoir entendu un président d'association lire le texte de Montesquieu qu'on nous faisait apprendre pour nous expliquer le second degré. Vous savez, c'est sur l'esclavage. Alors, il dit, ah oui, l'esclavage, c'est bien parce que les Noirs sont Noirs et que nous sommes Blancs, en gros. Donc, c'est que des trucs complètement absurdes. Eh bien, je me rappelle avoir entendu un président d'association dire qu'il fallait bannir Montesquieu. Les gens ne comprennent plus le second degré.
J'allais dire au secours Coluche.
Oui, mais je crois même qu'une fois, vous avez dû me le dire sur le plateau. Après, vous avez dû me dire, fais gaffe, le second degré, ça passe pas sur le plateau.
Bon, il y aura une enquête sur le cinéma, une commission d'enquête. Alors ça, moi, les commissions d'enquête, c'est vrai qu'ils se disent souvent des choses. Donc c'est intéressant parce que vous allez entendre cette députée. Donc une enquête, on est d'accord que les députés peuvent auditionner qui veulent.
Et si la personne ne vient pas, ils peuvent mander la force publique pour les amener.
D'accord. Donc on peut, par exemple, tous les réalisateurs qui ont été cités. Oui. C'est... Alors ça, Ça, il va falloir retransmettre en direct. Hein. C'est la demande de Judith Godrej qui a été entendue. L'Assemblée nationale a approuvé à l'unanimité la création d'une commission d'enquête sur les abus et violences dans le cinéma. Les députés ont adopté à l'unanimité la proposition de résolution initiée par l'écologiste Francesca Pasquini sous les yeux émus de l'actrice. Écoutez cette députée.
Merci à nouveau à tous ceux qui ont eu le courage de dénoncer, de demander explicitement la création de cette commission d'enquête. J'ai hâte qu'elle puisse se mettre au travail pour, comme je le disais tout à l'heure, passer à l'action. Et nous serons avec mes 30 collègues qui feront partie de cette commission d'enquête très attentifs et très déterminés pour qu'elle puisse signer la fin de l'omerta, la fin de la culture du silence et apporter des solutions concrètes. Il est temps d'arrêter de dérouler le tapis rouge aux agresseurs. C'est de notre responsabilité et nous le devons aux milliers des victimes qui ont parlé et qui, je l'espère, demain continueront à le faire.
Il y aura une difficulté majeure pour cette commission d'enquête. Vous savez qu'une commission d'enquête parlementaire ne peut pas enquêter sur des faits visés par la justice et qui sont déjà soumis à une enquête judiciaire. Donc, ils ne pourront pas auditionner des personnalités du monde du spectacle qui ont affaire à la justice.
Oui, mais il y en a pas, il y en a quelques-unes, mais il y en a pas énormément.
Donc ils vont se contenter, à mon avis.
Par exemple, tous les réalisateurs qui ont tourné avec Depardieu, par exemple, tu peux leur demander de venir.
Bien sûr.
Ça va être.
Oui, sauf que Depardieu, ça va être étrange. Aujourd'hui, fait l'objet d'enquêtes judiciaires.
Oui, mais les autres, par exemple, tu as le droit d'écouter les autres.
Ils vont pas pouvoir s'exprimer forcément sur Depardieu qui est visé par une enquête judiciaire.
Bon, ça vous êtes sûr?
Ça, c'est une règle très stricte.
On l'a. Avec, par exemple, Patrice Lecomte qui a fait tourner Depardieu, je crois. Les volets verts, je crois que c'est Patrice Lecomte le dernier.
Mais non, ils vont recueillir un témoignage.
Non, c'était.
Maigret, non, c'était pas le film.
Non, les volets verts, c'est le fils de Becker.
Becker.
Donc, par exemple, tu reçois Becker, Jean Becker, mais tu ne peux pas l'interroger sur Depardieu, c'est ça?
À mon avis, c'est compliqué parce que ça entrave le pouvoir judiciaire, ça empiète sur le pouvoir judiciaire. Ça, c'est une règle. Moi, je me souviens, on a eu ce problème avec l'affaire Doutreau, par exemple.
Ouais.
Il faut bien comprendre ça, que leurs travaux seront. C'est intéressant, ça part d'une bonne démarche, à mon avis. Mais ça va être compliqué à gérer tout ça.
Non, mais Georges a raison. Hein. Ils ne peuvent pas être interrogés sur des affaires judiciaires en cours. En revanche, ils peuvent être interrogés sur le climat dans le cinéma de manière générale.
Oui, mais qu'est-ce que tu vas dire, réalisateur?
Non, mais ils vont chercher les moyens de contrer ce phénomène, d'éradiquer ce phénomène. Probablement proposer des référents dans chaque
région. Ça va être bien, ouais.
Mais leur pouvoir est quand même limité. Mais en tout cas, c'est une bonne démarche, à mon avis.
Bon.
Mais qui sera limité.
Isabelle.
Non, mais bon, je veux pas repartir. Vous savez.
Faut pas l'attendre.
Vous savez bien que moi, je pense qu'on est en train de remplacer les règles de la justice par celles du spectacle.
Ouais.
Je pense qu'on juge le passé. Si vous voulez, on juge. Alors on dit tout le monde. Si tout le monde acceptait un certain type de choses, je ne vois pas comment on peut les juger aujourd'hui. Si vous voulez, donc on juge le passé avec les yeux, le présent avec les yeux du passé. L'inverse, pardon. Enfin bon. Tout ça, si vous voulez, avec des gens qui font des pétitions pour dire « Regardez, comme nous, on est bons,
oui, mais
nous n'en sommes pas, nous sommes des gens qui sommes. »
Sur le fond, quand même, on peut
reconnaître qu'il y a une détestation des hommes derrière
ça. Le monde du cinéma et du spectacle, c'est un milieu d'emprise, de pouvoir,
oui.
Où on passe de l'anonymat à la notoriété.
Oui. Mais
donc tout ça, c'est quand même des ingrédients qui, parfois, pour des personnes fragiles...
C'est vrai
oui, il faut quand même le remarquer.
Trouver des garde-fous.
Et vous allez mettre des référents, ça va être super.
Je dis pas ça. Je dis « La chasse aux sorcières me fait évidemment peur », mais ce que je veux dire, c'est que ce milieu est connu
mais
pour ça.
Mais c'est pas le seul milieu. Il y en a d'autres
aujourd'hui.
Oui, il y en a d'autres.
On va faire des commissions d'enquête.
Ça vous plaît pas ce que je dis, Pascal?
Ah si, non, mais moi,
j'ai le droit de dire mon
opinion. Philippe a dit une phrase à laquelle j'aimerais répondre. Un viol est un viol dans le passé. Non, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de viols, excuse-moi, sont des relations consenties qui sont requalifiées ensuite en viol par les personnes.
Non,
si.
Là,
si, ben non, je m'avance et je l'assume. Je l'assume et je vous
donne. Non, mais là, ce qui est clair, mais je pense que c'est terminé, c'est que pendant des années, dans certains milieux, les hommes, en gros, se sont conduits n'importe comment.
Bah,
on va le dire à grands traits. Voilà. Quand les hommes, certains hommes, quelques hommes.
Vous pensez que les femmes leur couraient pas du tout après
non. Quelques hommes. Non, honnêtement, moi j'ai découvert, souvent je dis ça dans l'affaire MeToo, des comportements des gens qu'on a connus. Je n'imaginais pas ça. Vraiment, je n'imaginais pas ça. Le témoignage que j'ai entendu, je n'imaginais pas ça. Je ne peux pas vous dire autre chose. Bon. Donc, quelques hommes. Et aujourd'hui, ces hommes, ils ne se conduiront plus comme ça. Parce qu'ils savent que...
C'est tant mieux.
Voilà. Et que c'est tant mieux. Parce que les gens parlent.
Ouais. Enfin, la nature humaine...
Non, mais quand je vous dis que le...
La nature humaine, justement, la nature humaine, elle a besoin d'être dans ces cas-là, dans un rapport de force, où le rapport de force a changé. Et tant mieux, de ce point de vue-là.
Ce n'est pas que la détestation des hommes, c'est la détestation de certains comportements.
Bien sûr.
Non, derrière, eh bien, je suis pas d'accord. Derrière, je pense qu'il y a une détestation du désir masculin, de tout ce qu'il a de trouble, de tout. Oui, je le pense.
Enfin, de trouble, pardonnez-moi, le désir masculin, c'est pas de ça.
De tout ce que le désir a de trouble. Oui, le désir, c'est trouble. Le désir, c'est pas transparent.
Non, mais arrêtez avec ça. Non.
Bah non, j'arrêterai pas.
Non. Écoutez, c'est pas du désir masculin quand t'as 50 ans d'harceler une jeune fille de 18 ans et de la contraindre à des choses qu'elle ne veut pas faire. Ça s'appelle pas le trouble. Ça s'appelle juste
abus de pouvoir.
Oui, ce que j'essaye de vous dire, c'est que derrière la condamnation, c'est important que je puisse préciser, derrière la condamnation de comportements que la loi condamne, il y a derrière cela une condamnation en masse. Enfin, quand on nous dit, quand je vous dis qu'aujourd'hui le consentement, on peut le reprendre. Il y a des femmes qui ont consenti et qui arrivent en disant en plus, ah ben non, finalement, j'ai pas consenti. Excuse.
Bon.
C'est ça, il y en a plein.
Écoutez, il est à 21h. Il est 21h. On n'a même pas parlé du Paris Saint-Germain, qui se qualifiera mardi prochain.
Ah oui, vous m'avez fait beaucoup rire avec Vendroux sur Europe 1. Vous m'avez fait. Bah alors là, pour le coup, j'ai trouvé le sketch très drôle. Quand on dit non, ne nous dites pas qu'ils vont gagner, ils vont perdre.
Alors, les téléspectateurs ne sont peut-être pas au courant. Jacques Vendroux est venu sur notre plateau avant Paris-Barcelone pour nous dire Paris sera éliminé. Et Paris a été qualifié. Hier, il est venu sur notre plateau pour nous dire que Paris allait gagner à Dortmund et Paris a perdu. Donc ce matin, je lui ai dit.
Ne dites rien.
C'est toi.
Ou alors dites que Paris va perdre, si vous voulez. Bon, donc c'était cela.
Et on l'aime, on l'aime.
Mais évidemment, il est formidable, Jacques. Il sera avec nous d'ailleurs demain matin dans l'heure des pros. Monsieur Benkemoun, c'est à vous.
Bonsoir.
Bonsoir. Bon.
Invité dans un instant, c'est le ministre de l'économie d'Israël, l'ancien maire de Jérusalem qui sera là, Nir Barkat. Beaucoup de choses à dire évidemment sur ce qui se passe en ce moment en Israël. Est-ce qu'il y a une trêve qui arrive réellement ou non, où on en est? Peut-être qu'on aura quelques coulisses. On va parler également, puisqu'il est ministre de l'économie, des conséquences pour Israël. Donc il y a beaucoup de questions qui vont être posées. Tête à tête d'une vingtaine, environ 25 minutes, et puis ensuite d'autres invités nous rejoindront.
Et puis, parce que Laure Parra nous écoute, et Laure Parra, vous la connaissez, elle intervient sur tous les sujets à Marseille depuis tant d'années pour notre chaîne. Elle me dit « LOM ». Donc, « Allez l'OM ».
Eh oui, ce soir.
« Allez l'OM ». « Allez l'OM » qui joue contre Bergame ce soir. « Allez l'OM », peut-être deux équipes en finale de Coupe d'Europe cette année, Marseille et Paris, ce serait merveilleux. C'est arrivé qu'une fois. Oui, c'est arrivé en 2003, figurez-vous, où Monaco était en finale et l'OM était en finale à Göteborg, figurez-vous, en coupe UEFA. Et l'OM avait perdu 2-0. Et j'y étais, ce jour-là. C'est pas moi qui avais fait perdre l'OM, bien
on
évidemment.
On voyage dans le monde. Hein,
oui, les journalistes de foot, à l'époque, ça voyageait. Nous terminons en vous disant que qui était avec nous ce soir, c'était Guilhem Lafage, Jean-Luc Lombard était à la réalisation. C'était en 2004, me dit Julien Pasquet. J'ai dit 2003 d'ailleurs, c'est 2004. Jean-Luc Lombard était à la réalisation. Hugo Trindade était à la vision. Yannick était au son. Benjamin Cuneo était avec nous. Je le remercie Benjamin parce qu'il était avec nous hier et aujourd'hui. Il a été remarquable comme d'habitude. Lucas Consalves était aussi là. Guilhem Lafage, bien sûr. Et puis je suis content d'avoir eu des nouvelles de l'ami Julien Pasquet, parce que je sais qu'il a eu quelques difficultés dans un match en fin d'après-midi, puis il était un petit peu forcément en très grande difficulté, mais bon.
Mais un match de quoi?
On joue tous les jours à 19h. Il a perdu, il y a eu un nouveau ballon, et ce nouveau ballon ne lui a pas porté chance. Mais bon, c'est autre chose. À demain matin.